Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Missika, la directrice communication RSE et affaires publiques d'Heineken France, le premier brasseur de France. Salut Caroline.
Bonjour Alice, merci beaucoup de me recevoir, je suis vraiment ravie d'être là.
Alors dis-moi un petit peu, quel est ton poste aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je m'occupe des affaires publiques, de la communication et de la RSE pour Heineken en France. Et Heineken en France, ça recouvre deux activités, celle du brasseur et celle du distributeur avec notre entreprise France Boisson.
Alors c'est un peu réducteur, brasseur de France, tu me disais qu'il y avait d'autres activités.
Bien sûr, effectivement. Alors Heineken en France a deux activités. Il est à la fois brasseur avec des marques internationales que tout le monde connaît, comme la marque éponyme du groupe, mais aussi des marques comme Desperados, Affligem, Gallia. Plein de marques qu'on brasse et qu'on commercialise en France, mais on a aussi, et on est leader, et on a aussi une deuxième activité dans laquelle on est aussi leader, c'est la distribution pour les cafés, hôtels, restaurants de boissons. Et un chiffre est assez parlant, c'est un café, hôtel, restaurant sur quatre en France est livré par France Boissons. Et donc, c'est notre deuxième activité. Donc, on est brasseur et distributeur, et c'est ce qui fait qu'on est présent sur tout le territoire à travers nos sites de brasserie. Nos brasseries, mais aussi les 71 entrepôts France Boissons qui sont répartis sur tout le territoire pour qu'on puisse livrer nos clients, les cafés, les hôtels, restaurants au plus près avec toutes les boissons qu'ils souhaitent commercialiser dans leur lieu.
Et alors, donc toi, tu occupes un poste RSE d'ailleurs. J'ai envie de revenir sur ton parcours puisqu'on en parlait aussi. C'était pas du tout, t'as pas toujours fait ça ?
Ah, absolument pas. je suis parisienne et j'ai commencé ma carrière dans l'administration. J'étais au ministère de l'économie où je m'occupais d'accords de libre-échange et de négociations à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, où j'ai même passé deux ans à Genève au tout début de ma carrière. Et ensuite, en travaillant sur le commerce international et les enjeux économiques, j'ai découvert aussi l'autre côté, le secteur privé, où j'ai voulu rejoindre. Et la passerelle la plus naturelle, c'était les affaires publiques. C'était le lobby, c'est un peu ce gros mot parfois pour certains, mais qui est la représentation des intérêts privés auprès des pouvoirs publics. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le secteur privé après quelques années dans l'administration et j'ai occupé des différents postes plutôt autour des affaires publiques, de la communication et puis je suis arrivée à la RSE puisque ces sujets sont assez interconnectés et passionnants. Et depuis maintenant presque deux ans, j'ai rejoint Heineken, ce magnifique groupe, ce brasseur et ce distributeur qui fait face à de nombreux enjeux et qui, en tant que leader de sa catégorie et aussi de ses activités de distributeur, doit montrer la voie et s'engager.
Et justement, tu me parles de ces enjeux. Alors moi, là, en tête, j'aurais de la mobilité, le packaging, l'eau, puisque ça utilise quand même beaucoup d'eau, sanitaire, puisque c'est quand même des boissons alcoolisées. Il y en a plein. Donc, par lesquels sont les plus importants pour vous aujourd'hui ?
Alors, tous ceux que tu as cités sont essentiels. Ouais. Mais si on prend un pas de recul, l'important d'abord, c'est de se dire, en tant qu'entreprise, en tant qu'acteur économique présent sur un territoire, en France, on a un rôle à jouer. On a une responsabilité et on la doit au territoire, aux consommateurs, aux citoyens, aux autres acteurs économiques avec qui on interagit. Donc on a cette responsabilité et on doit, en connaissant bien l'ensemble de notre activité et de notre chaîne de valeur, comprendre là où on peut agir, là où on peut faire mieux, là où il faut mettre notre énergie, nos ressources, nos investissements pour améliorer notre empreinte. Pour reprendre le nom de ton podcast.
L'alcool, enfin moi j'y ai travaillé aussi avant Carrefour et avant de monter ma boîte, j'étais chez Rémy Cointreau. C'est un secteur qui ne connaît pas de crise.
Alors, c'est un secteur effectivement assez dynamique, avec un marché qui se développe, avec de nouveaux acteurs, des acteurs de toute taille, qui offrent aux consommateurs une large variété de produits et de boissons. Pour autant, on fait face à un certain nombre de crises, parce que depuis quelques années, depuis notamment la guerre en Ukraine, on a une explosion du coût de nos matières premières, des coûts de production au sens large, avec le coût de l'énergie, mais aussi du verre ou des céréales qu'on utilise pour faire nos bières. Donc, en soi, le marché est dynamique. Pour autant, nous, en tant qu'acteurs économiques, on fait face à des difficultés. Et elles sont d'autant plus importantes qu'on ne veut pas renoncer à tous les investissements qu'on doit faire et qui sont nécessaires pour la transition écologique, pour transformer nos manières de produire, nos manières de distribuer nos produits, pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs et puis réduire notre empreinte carbone, parce que clairement, on a un rôle à jouer aussi de ce point de vue-là.
Et justement, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans votre empreinte carbone aujourd'hui ?
Tu l'as cité, ce sont les emballages.
C'est les emballages.
D'ailleurs,
tu me parlais du verre. Vous avez opté pour le verre, alors ?
Nos produits, nos boissons, nos bières sont proposés aux consommateurs dans des bouteilles en verre, aussi en canette. Ça, c'est dans le circuit de la grande distribution. Et puis, quand on consomme une bière dans un bar ou sur une terrasse, c'est à travers soit des bouteilles en verre consignées, donc du réemploi, soit issues d'un fût. Et là aussi, c'est du réemploi. Donc, on a différentes manières de proposer nos boissons, nos bières. Et pour toutes, on essaye de trouver celle qui minimisera l'empreinte carbone et ce sur quoi on peut agir. Donc aujourd'hui, quand on prend les emballages, c'est notre principal poste d'émission. Donc c'est celui sur lequel on met aussi beaucoup de moyens pour trouver comment réduire leur empreinte. Il y a différents leviers pour le faire. Le premier, c'est de travailler avec nos fournisseurs de verre ou d'aluminium pour voir avec eux comment, dans la fabrication des emballages, ils peuvent réduire leur empreinte carbone et ça passe par le mix énergétique qui est utilisé par les fabricants de verre ou d'aluminium. C'est aussi le poids des emballages. On a par exemple réduit de manière très très significative le poids de notre bouteille. Aujourd'hui, on a la bouteille d'Heineken, c'est la bouteille la plus légère du marché. Elle fait 140 grammes. Ça, c'est des efforts de très long terme qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la bouteille la plus légère du marché. Un des autres leviers pour nos emballages, c'est la part de matières premières recyclées qui est incorporée pour fabriquer ces emballages. On est entre 19 et 75% de matières premières recyclées dans nos emballages. Et évidemment, on aspire à augmenter cette part au maximum. Donc, il y a différents leviers sur lesquels on travaille. Il y a aussi le fait de réduire le nombre d'emballages qu'on met sur le marché à travers des emballages réemployables. Donc, nos fûts pour les cafés, hôtels, restaurants, pour ce circuit de consommation, mais aussi des pilotes qu'on peut imaginer, des tests de réemploi dans la grande distribution avec nos clients de la grande distribution pour répondre aux attentes des consommateurs qui souhaitent davantage de réemploi et trouver la meilleure des manières d'offrir nos produits sous cette forme.
Et ça, alors, c'en est où ? Est-ce que les consommateurs adhèrent à ce fonctionnement ou pas ?
Alors, ils y adhèrent, ils y aspirent. Et ouais, à nous, aujourd'hui, de trouver le meilleur modèle d'un point de vue économique et environnemental qui répondra à cette attente. Et c'est toujours la difficulté dans les changements de comportement des consommateurs, c'est d'y répondre de la bonne manière. Il y a souvent une impatience du consommateur qui se dit bah, « il n'y a qu'à faire ». Le temps de l'entreprise n'est pas toujours le temps du consommateur ou même le temps politique. Il nous faut trouver et adapter nos modes de production, nos modes de distribution, nos modes de transport, travailler avec nos clients pour trouver comment le modèle peut fonctionner. Et donc aujourd'hui, si on fait des tests, notamment avec la grande distribution, nos clients, c'est pour trouver le meilleur modèle, le modèle de demain qui permettra de développer davantage le réemploi. Je le rappelle, aujourd'hui, le réemploi, c'est une réalité déjà dans les cafés, hôtels, restaurants. Souvent, le consommateur ne s'en rend pas forcément compte que quand il boit une pinte de bière au zinc, en fait, elle est issue d'un fût et donc c'est du réemploi. Aujourd'hui, c'est une réalité moins présente dans les autres circuits de distribution et à nous de trouver le modèle de demain. Et on ne pense pas qu'on y arrivera seul, donc on travaille avec nos pairs, d'autres acteurs du secteur, mais aussi nos clients et puis tous ceux qui peuvent être experts du domaine pour trouver le modèle de demain à construire collectivement, faire les investissements en commun pour les mutualiser et servir l'intérêt général.
Et on parlait de l'eau aussi, parce que c'est quand même un gros sujet de l'eau. Vous en utilisez beaucoup, beaucoup. Comment on peut réduire ça ?
Effectivement, l'eau est un des principaux ingrédients de la bière. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis de nombreuses années. Pour identifier tous les leviers possibles et peut-être ceux qu'on n'a pas encore trouvés pour réduire la consommation d'eau et préserver les ressources. Le premier, c'est le ratio d'eau nécessaire pour faire de la bière, sur lequel on travaille depuis des années pour le réduire au maximum.
Et on mettrait quoi à la place ?
Alors, on met toujours de l'eau, mais c'est en améliorant nos manières de produire, en évitant...
Pas de déperdition.
Pas de déperdition. Mmh. On a des systèmes dans nos brasseries qui identifient toute fuite potentielle pour la colmater et l'arrêter. Et c'est pour tous les usages en dehors de la bière elle-même, tous les usages de l'eau que l'on peut avoir sur un site de production, comment on a des alternatives. Il y a aussi les enjeux de réutilisation. Comme tu le sais, c'est de plus en plus possible et à développer de réutiliser des eaux ensuite en les traitant pour un certain nombre d'usages industriels. Donc, on creuse ces pistes et on travaille aussi, grâce au fait d'être dans un groupe international et qui est présent dans beaucoup de pays où il y a aussi des enjeux liés à l'eau et qui peut-être des enjeux qui ont été identifiés depuis bien avant que la France aujourd'hui soit face à des enjeux de sécheresse à répétition. Et donc, grâce à nos collègues qui ont pu travailler sur des programmes pour limiter et préserver l'eau, on essaye de les dupliquer en France, ou en tout cas d'imaginer avec nos partenaires locaux comment on pourrait les mettre en place à court et moyen terme.
Et alors, d'un point de vue sanitaire aussi, moi, ça me parle beaucoup, puisque c'est quand même de l'alcool. Donc, on n'encourage pas la consommation d'alcool, hein, de base. Hein. On pourrait très bien s'en passer. Après, ça reste un produit de plaisir, et le but n'est pas non plus de réduire tous les plaisirs de la vie. Mais comment vous faites? Parce que engager... Déjà, il n'y a pas de publicité, hein, c'est interdit.
Alors, elle est encadrée. Elle est encadrée, effectivement, en France. Mmh. Tu fais bien de le souligner. L'excès d'alcool est dangereux pour la santé, c'est un fait avéré et notre rôle en tant qu'industriel dans ce secteur et leader de la catégorie, il est de promouvoir une consommation responsable, une consommation modérée de nos produits. Et notre responsabilité, on l'exerce en développant des campagnes de sensibilisation auprès d'abord de nos collaborateurs, de nos clients, des consommateurs, en nouant des partenariats avec des associations qui jouent aussi ce rôle de sensibilisation, en participant à des campagnes plus larges de la catégorie ou avec d'autres acteurs de l'alcool pour encourager à cette consommation responsable, faire adopter les bons réflexes et les bons gestes. Et puis, en tant qu'industriel, on a aussi une autre dimension, c'est celle d'offrir une alternative aux consommateurs avec le développement d'une offre 00, qu'on appelle 00, donc sans alcool. Et on fait partie des premiers acteurs, des premiers brasseurs à avoir proposé nos marques iconiques dans une version sans alcool. Heineken, Affligem ou Desperados, nos marques phares, existent toutes dans une référence et sont proposées dans des références sans alcool. On prévoit toujours de développer davantage de références pour répondre à cette attente des consommateurs et puis pour leur offrir une alternative avec en conservant le goût, mais sans alcool.
C'était les 150 ans d'Heineken récemment, non ?
Effectivement, cette année, c'est les 150 ans de la marque Heineken. Et à cette occasion, et dans la lignée de campagnes qui ont déjà été développées les années précédentes en France, on a décidé avec la marque de l'utiliser pour promouvoir et sensibiliser les consommateurs aux gestes de tri. C'est essentiel pour nous que le consommateur n'oublie pas que lorsqu'il a fini de consommer nos bières, il les mette dans l'emballage, dans la bonne poubelle, pour qu'elle soit ensuite la poubelle de tri, le fameux bac jaune ou le bac de verre, pour qu'ensuite elle soit collectée, recyclée et, comme je l'évoquais, on puisse utiliser davantage de matières recyclées dans nos futurs emballages. Et la marque Heineken l'a déjà fait et a recommencé cette année, à l'occasion des 150 ans, de développer une campagne de communication grand public que vous pouvez trouver, vous pouvez voir dans le métro ou dans la rue, avec des affiches faisant la promotion du recyclage, du geste de tri ou du réemploi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant comme mouvement, c'est d'imaginer qu'en fait les marques, au-delà de parler de leurs produits ou de valoriser des innovations, utilisent leur force de frappe pour des causes qui les dépassent et qui sont collectives. Et c'est notre rôle aussi en tant qu'entreprise de participer à ce mouvement de sensibilisation des consommateurs.
Alors oui, et puis en plus, ça, pour le coup, ça, c'est un vrai sujet, le tri. Et au-delà de ça, même les filières de tri, enfin, c'est hyper compliqué. Donc, ça commence par le consommateur, mais derrière, c'est pas tout. Et je suis même pas sûre que ce soit assez, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop le choix de pouvoir trier. Ça doit plus être un choix, en fait. Ça doit être maintenant un devoir, en fait, de trier ses déchets. Et ça, c'est malheureusement, c'est pas encore assez réglementé, je pense.
Alors, si ce n'est passer par la réglementation, ce qui est assez frappant, c'est que quand il y a des sondages qui sont faits, la majorité des Français disent trier et leurs emballages, mais en revanche, ne pas le faire systématiquement.
Et puis la poubelle, là, dehors, on a quand même les poubelles dehors où c'est tout, où on met tout. Et ça, il n'y a pas de tri. Donc, à un moment, en fait, on ne devrait plus avoir cette possibilité de poubelle, je pense.
Justement, alors ça, c'est des travaux auxquels on participe avec, avec d'autres acteurs, d'autres industriels. On a une responsabilité, on a la responsabilité, ça s'appelle la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire qu'on a la responsabilité de la fin de vie de nos emballages. Et donc, on doit encourager les collectivités locales, tous les acteurs concernés, à offrir aux consommateurs, qu'ils soient soit chez lui, soit dans la rue, la possibilité de trier et donc d'avoir des poubelles de tri aussi accessibles dans des lieux de passage comme des gares, des aéroports. Et donc, de plus en plus, on peut le voir et nous, on encourage énormément à ce que ce soit mis en place, des poubelles de tri aussi dans les lieux de consommation hors domicile, puisque chez soi, on fait le geste et il faut pouvoir le faire aussi à l'extérieur. Nous, on pense que ça passe par de l'éducation et de la sensibilisation. C'est pour ça aussi qu'on utilise nos marques pour sensibiliser les consommateurs.
En fait, ça devrait être un réflexe, comme fermer la porte, éteindre le robinet. Ça devrait être un réflexe.
Ça le deviendra.
Ça le deviendra, oui.
Mais... Moi, j'essaye de rester très optimiste sur ce sujet.
Oui, non, mais tu as raison. Et puis d'ailleurs, on a besoin des marques pour communiquer quand c'est comme ça. Mais c'est vrai que moi, pour baigner un peu dans le milieu depuis un petit moment, je me rends compte qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire sur le tri. Le tri reste un énorme sujet pour beaucoup d'entreprises et pour les collectes aussi. Donc, c'est compliqué. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas vu ensemble ?
Je crois qu'il y a un des points importants, c'est le rôle de la RSE, et puisque c'est aussi un des thèmes du podcast, c'est le rôle qu'on peut avoir dans l'entreprise et au-delà de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, je pense que nos missions et notre rôle, c'est de sensibiliser les collaborateurs, de les équiper avec aussi une meilleure connaissance. Tu évoquais la question du tri, par exemple, et du recyclage. Une meilleure connaissance de l'ensemble des caractéristiques des produits sur lesquels ils travaillent, d'en faire aussi des ambassadeurs en leur donnant de la fierté de travailler pour des marques qui s'engagent, justement, et avec aussi beaucoup d'humilité, de savoir que le chemin est encore long, qu'on doit faire, qu'on peut faire toujours mieux et qu'on doit trouver quelles solutions on peut développer avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec l'ensemble des partenaires, les solutions pour inventer le modèle de demain, pour pouvoir continuer à commercialiser nos produits dans un grand sens de responsabilité.
Oui, et puis le chemin est long, mais malheureusement, l'urgence est là. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a besoin des entreprises comme les vôtres pour investir, pour développer, pour booster les innovations, pour pouvoir les mettre à l'échelle. Parce qu'en fait, sans investissement, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les entreprises se mobilisent, que vous continuiez, qu'on continuiez d'ailleurs à pousser les filières, parce que c'est grâce à vos investissements que les filières sont plus matures et vont pouvoir produire plus d'emballages respectueux, etc. D'ailleurs, petite question, est-ce que cette bouteille légère, vous l'avez mis en open source ou pas ? Vous l'avez gardée ?
Alors non, ça fait partie des attributs de la marque. D'accord. C'est quand même iconique, la bouteille. Mais pour autant, les progrès qui ont pu être faits pour notre bouteille, par notre fournisseur, peuvent être dupliqués, évidemment, par d'autres qui seraient intéressés. Évidemment, tous les progrès bénéficient de manière générale à l'ensemble des acteurs.
C'est l'objectif, en fait.
Et c'est l'objectif pour nous. Montrer la voie ou suivre la voie d'autres. Nous, on est acteurs et on essaye de trouver justement les meilleures solutions et pas forcément seuls, mais en travaillant main dans la main avec l'ensemble des parties prenantes, nos clients, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux, nos prestataires, nos fournisseurs, les consommateurs aussi, quand on peut les impliquer, comme par exemple sur ces enjeux de tri et de recyclage et de réemploi. On a besoin tous ensemble de travailler et de construire les solutions de demain. Moi, c'est une des choses qui me passionne, c'est ce travail collectif. Évidemment, je représente les intérêts d'une entreprise, mais d'une entreprise dans un secteur qui a un rôle à jouer en tant que leader. Mais qui ne fera pas tout seul.
En fait, c'est un secteur sur lequel on ne doit pas avoir de concurrence, pour moi. C'est un secteur sur lequel il faut qu'on s'entraide tous pour aller plus vite, plus loin et
en tout cas,
ensemble.
Que cette concurrence, elle tire vers le haut.
Exactement.
Et elle nous oblige chacun à, en permanence, revoir ses objectifs, revoir ses ambitions et à se dire, alors, on peut faire plus, on peut faire mieux, en restant humble. Parce qu'on sait que il y a une impatience aussi et qu'on n'arrivera peut-être pas toujours à répondre à l'impatience du consommateur ou de l'opinion publique, mais de faire au mieux pour y répondre le plus vite possible.
Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu dans l'empreinte. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.